Chers amis, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie après l'Iran, le Liban. On va partir à la campagne avec les néo-ruraux parce que nous recevons Bertrand Lacarelle. Bertrand Lacarelle, bonjour.
Bonsoir messieurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes écrivain, vous êtes donc auteur d'un parcours assez singulier dans les lettres françaises puisque donc, vous avez commencé par écrire des essais sur Jacques Vacher, Arthur Cravan, chez Grasset. Vous avez fait un premier roman, publié un premier roman, La Taverne des Ratés de l'Aventure, chez Pierre-Guillaume Deroux. Puis ensuite, vous avez fait un livre hybride, à la fois poétique, politique, et, qui s'appelle Ultra Graal, on en parlera, toujours chez Pierre-Guillaume Deroux. Et puis là, vous publiez donc, vous avez publié en fin d'année votre deuxième roman, Retour aux Fougères, aux éditions du Cherche Midi. Et donc, quand on voit un peu dans votre œuvre, on voit une fidélité à des figures de refus, d'insolence, d'aventure, de dissidence intérieure, mais aussi un goût très net pour les vies qui se dérobent au monde moderne, c'est pour ça qu'on les aime bien, aux automatismes et aux sommations de l'époque. Et donc votre nouveau roman, Retour aux Fougères, raconte la sécession des habitants d'une petite vallée, dans un climat où flottent Giono, Charbonneau, Bernanos, Orwell, et tout un imaginaire de retrait, de soulèvement discret, de refus du progrès imposé. Donc il est encore question d'archipel, mais non pas post-humaine à la Houellebecq, mais plutôt en mode nouveau départ. Donc si vous aimez les livres qui font entendre autre chose que le bruit contemporain, chers auditeurs, vous êtes au bon endroit. Mais avant cela, on a une tradition, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous !
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Bertrand Lacarelle, qui est le grand écrivain qu'on admire, mais surtout de loin.
Alors, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais c'est vous parlez des écrivains qu'on ne lit pas, en fait, ou alors des écrivains infréquentables.
Ah bah c'est comme vous préférez, les deux étaient ouverts.
Si c'est les écrivains dont on parle, qu'on ne lit pas, pour ma part, James Joyce, j'ai jamais réussi à le lire. Si on parle des écrivains infréquentables, je dirais aujourd'hui, évidemment, Richard Millet.
Le personnage littéraire que vous auriez aimé avoir comme compagnon de fuite ?
Alors j'hésitais avec Gauvin, puisqu'on va peut-être parler du livre du Graal tout à l'heure, mais sinon bien sûr D'Artagnan, parce qu'on est sûr avec lui de prendre le temps de s'arrêter dans une auberge et de faire un bon repas malgré l'urgence de la fuite.
Après il faut assumer de voyager sur un poney qui ressemble à rien. Quel est le plus grand faux rebelle de notre époque ?
Alors les fameux mutins de Panurge de notre ami Philippe Muret. J'ai entendu parler dernièrement de... Alors, il est peut-être très sympathique, hein, je ne veux pas être méchant, mais j'ai entendu parler de Nicolas Mathieu.
Il est très sympa.
Quand je prends le train, je vois la presse People, et donc le prix Goncourt 2018, et grande conscience apparemment de la gauche, et nouveau prince de Monaco, d'après ce que j'ai compris. Mais il a, du reste, très bon goût, manifestement.
Le livre à offrir à un néo-rural.
Alors, bien sûr, le pape des escargots ou la bibaude d'Henri Vincenot.
Le plus grand vice du monde littéraire.
Alors, ces jours-ci, sans hésiter, la pétitionnite. parce que j'ai l'impression qu'il y a une véritable épidémie en cours.
Quel est le livre que vous auriez aimé éditer ?
Beaucoup, mais notamment, j'ai pensé à La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, de préférence de son vivant.
Le livre que vous n'arrivez jamais à finir ?
À la recherche du temps perdu, je ne trouve pas le temps de lire Le Temps Retrouvé.
La plus grande escroquerie littéraire.
Je dirais des choses comme Loulipo, le nouveau roman, voilà, sans surprise.
Le classique le plus surestimé.
Alors j'ai pensé à Boris Vian ou à Jacques Prévert qui sont en Pléiade. Bon, c'est pas trop pourquoi.
L'écrivain injustement oublié.
Alors l'écrivain injustement oublié. Oublié, c'est d'actualité aussi, je dirais Paul Morand, parce que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup, c'est le cinquantenaire de sa mort.
Ah, autre truc qu'il a oublié ?
Pas beaucoup de Paul Morand en ce cinquantenaire, ni de son comparse Jacques Chardonne, deux très grands stylistes.
On parle de Malraux et un peu de Pasolini.
C'est voilà, Malraux surtout.
Mais pas du tout de Paul Morand. Ouais. Ouais,
la plus belle ouverture d'un roman ?
Longtemps, j'ai cru m'en tirer sans éclat. Je trouve ça mieux que « Longtemps, je me suis couché de bonheur ». Et je lis la suite. « J'appartenais à cette génération heureuse qui aura eu 20 ans pour la fin du monde civilisé. » Remarque à reconnu.
Bah, la phrase, oui, mais je, comme ça...
Voilà. C'est Sanders dans « Le Hussard bleu ».
Ah, oui. Et la plus belle fin pour finir.
« C'est là ce que nous avons eu de meilleur. » Flaubert, l'éducation sentimentale.
Je crois que j'ai jamais terminé. Merci Bertrand Lacarelle. Alors... Passons à votre livre, Retour aux Fougères, aux éditions du Cherche Midi. Donc, Romaric l'a lu, et je crois qu'il l'a aimé.
Et oui, bien sûr, comme tous les livres de Bertrand Lacarelle, qui est un ami et que je lis avec enthousiasme depuis fort longtemps. Cher Arthur, vous avez parlé des genres de l'œuvre lacarellienne, c'est-à-dire entre essais, romans, etc. En réalité, il n'a jamais été vraiment dans un genre très défini. Ses essais ont toujours dérivé un peu vers la poésie ou vers le récit. La Taverne des Ratés de l'Aventure, notamment, pas vraiment un roman, c'est vraiment quelque chose de très hybride.
Il est classé chez les romans.
Oui, mais parce qu'on veut classer les choses, mais
par en fait, un robot, peut-être.
Demandez ça à votre éditeur.
Disons que Lacarelle est trans là-dessus, au niveau genre.
Merci.
Mais d'un point de vue littéraire, pas sur d'autres, mais il est très transgenre d'un point de vue littéraire. C'est très hybride, on peut pas vraiment le classer. Et Retour aux Fougères est son premier, c'est pour ça aussi que je me permettais ce préambule, sans vouloir offenser notre ami. C'est simplement que c'est peut-être le plus romanesque des livres de Lacarelle, parce que là, en l'occurrence, il y a un vrai roman, enfin, au sens le plus classique du terme, même s'il est suivi d'un épilogue qui interagit avec le livre de manière particulière, puisque l'épilogue, c'est une liste, enfin plus qu'une liste, c'est une suite de portraits d'écrivains paysans, parmi lesquels notamment Bavin Snow, Ernst Jünger, enfin il y en a des dizaines, il faudrait
Orwell, Thibon, Giono,
voilà. Thibon, voilà.
Guillaumin.
Donc ils sont, cette suite de portraits, c'est comme un peu, je dirais un peu des satellites autour de l'histoire elle-même, qui serait un peu le soleil du livre, mais gravite autour cette constellation d'écrivains rebelles revenus à la Terre, autour d'une situation narrative qui est donc celle décrite par Retour aux Fougères, où on a plusieurs personnages qui se trouvent dans cette vallée, notamment un personnage envoyé par Paris pour faire des espèces pour faire remonter des informations, quoi.
Pour espionner.
Pour espionner, plus ou moins, mais qui prend le parti, en tout cas qui se laisse séduire par cette espèce de jacquerie.
Oui, parce qu'il faut peut-être raconter, cher Romaric, un peu le pitch, comme on dit en bon français.
Oui, j'ai du mal à y venir, je suis désolé.
Bah oui, mais il faut commencer par là.
Ce personnage qui vient dans une vallée, qui découvre en fait... voilà.
Mais non, il est envoyé dans cette vallée.
Oui, parce qu'il se trouve qu'il y a une antenne qui a été cisaillée.
Oui, un détail important.
Je ne dirais
une
pas...
Une antenne relais.
Une antenne relais de téléphone portable, et je sais qu'on en a parlé à de nombreux comptoirs avec Bertrand de cette histoire. Il était fasciné parce que ça part d'un fait divers
inspiré de faits réels.
Réel, oui. Qui a suscité finalement l'écriture. Qui a donc... couper cette antenne relais. Je ne sais pas si on peut le dire ou si on doit garder le
non,
secret.
Non, ça intervient assez rapidement.
Bon, puis c'est
l'antenne va sauter, évidemment.
Voilà, bon, ce sont des moines. Donc voilà, donc c'était ça qui était assez original, parce qu'il y a une insurrection tranquille, mais qui va faire travailler ensemble, enfin, relier autant des monarchistes complètement réactionnaires que des espèces de hippies en sécession avec le monde moderne. Et tous ces gens-là vont plutôt, finalement, que de s'opposer bruyamment ou de pétitionner, d'ailleurs, tout simplement fabriquer leur contre-monde de manière très concrète. Et donc, ça permet à Bertrand, derrière l'enquête, finalement, de raconter, de tisser tout un paysage et d'amener beaucoup de thèmes avec beaucoup de talent et de fluidité sur cette espèce de sécession avec le monde moderne qui est un néo-ruralisme qui est inspiré. Alors attention, c'était ça la différence avec d'autres auteurs qui sont intéressés par ce sujet aujourd'hui du retour à la campagne ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a toujours quelque chose de mystique, de symbolique, de métaphysique derrière la sécession lacarélienne. Il ne s'agit pas juste de revenir à la campagne, il s'agit de revenir à un ordre cosmique, juste, couronné, traditionnel, au sens chrétien, mystique, élevé, et pas uniquement cultiver des pommes parce que c'est plus sain pour la santé que de bouffer des hamburgers. Voilà, ça va beaucoup plus loin. C'est quand même porté vraiment par le livre. Donc voilà, qui se lit de manière très agréable et qui porte du coup des thèmes très forts, très importants, à travers une intrigue finalement fluide, simple, très, très accessible. Et c'est sans doute ça la réussite de ce livre, après tant d'autres qui tournaient autour de thèmes assez semblables, mais de manière peut-être plus occulte, plus happy few. Voilà, un Lacarelle plus mainstream, si on peut
ça
dire.
Ça fait beaucoup de noms.
J'ai essayé.
Et pardon.
Alors, j'ai une question, parce que Romaric a parlé donc de sécession. Mais qu'est-ce que vous entendez par le mot sécession ? Est-ce que c'est une révolte, c'est une fuite, c'est un retrait, c'est une reconquête ? C'est une rupture avec le monde et on s'enferme un peu comme certains, d'ailleurs, avaient Bon, c'est le Paris bénédictin, d'autres n'ont jamais voulu rejoindre la modernité, donc n'ont pas besoin de fuir. Comment vous... Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-là ?
Alors, le titre « Retour aux fougères », vous l'avez compris, est un clin d'œil à Ernst Jünger, « Le recours aux forêts », dont le vrai titre est « Le traité du rebelle ». Dans ce livre, le rebelle, symboliquement, prend le maquis, en fait, et se met en retrait pour pouvoir ensuite agir sur le monde. Ça, c'est le début de la pensée de Jünger. Ensuite, il ira dans Hummesville, vers la figure de, non pas du rebelle, mais de l'anarque. Et là, c'est vraiment une sécession intérieure. Le rebelle est banni par la société, et l'anarque, lui, bannit la société. C'est l'inverse. Mais c'est peut-être plus individualiste. Moi, j'aime bien l'idée de faire sécession pour refaire la civilisation, en fait. La refaire partir sur de bonnes bases, parce que, évidemment, de manière assez indécrottable, comme un néo-rural, en fait, moi, je viens de la campagne, j'ai grandi à la campagne. Je suis allé dans la ville Lumière pendant 20 ans, et là, ça fait 10 ans que je suis retourné chez moi, donc un retour aux sources. Je pense que qu'en fait, la civilisation issue des villes et des très grandes villes, des mégapoles, des mégalopoles. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des villes qui font plus de 20 millions d'habitants. Ça me paraît complètement insensé. Et je pense que notre civilisation est en train de s'effondrer dans ce mode de vie urbain que j'appelle le bourgeoisisme. En fait, c'est une vie basée sur la consommation, le confort, mais tout ça de manière très fragile, parce que de toute façon, on sait bien que... on voit bien, dès qu'il y a un problème de matières premières, les villes sont en danger.
On l'a vu pendant le confinement aussi.
Exactement. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont allés se
confiner. Justement, on en parlera après de ça, parce que c'est intéressant. Romaric, regarde.
Oui, non, c'est vrai que derrière la sécession, la carélienne, il y a quelque part cette phrase de Dominique de Roux, me semble-t-il, que
oui.
En fait, quelques souvent. Poules, un fusil et un hectare, et c'est une monarchie capétienne qui recommence.
Voilà, il suffit d'une ferme fortifiée, 10 hectares de vignes pour refaire... Un royaume capétien.
Ouais. Donc oui, il y a vraiment cette idée du royaume, mais d'ailleurs qu'on peut relier à l'un de tes précédents livres, Ultra Graal, sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais qui était éloquent par rapport à ça, où il y a une idée d'une conspiration royaliste occulte à travers tout le pays. C'est-à-dire que tu as le goût comme ça des conspirations.
Oui, alors, c'est vrai. Que
c'est l'agent K d'ailleurs,
des complots, qui est un personnage.
Tu as un grand goût du complot, mais alors du complot haut de gamme. On n'est pas dans le complot YouTube ou c'est pas un truc de
Soralien.
Ça va. Voilà, du complot haut de gamme, le complot mystique, le complot occulte, qui vient d'ailleurs. Il y a une autre phrase de Dominique de Roux. Pierre Guillaume a été, en l'occurrence, ton éditeur, et c'est une belle filiation. Il y a une autre phrase de Dominique de Roux qui pourrait être en exergue aussi de beaucoup de tes livres. C'est le petit nombre finira par l'emporter sur la subversion. Finira par l'emporter subversivement sur la subversion elle-même et toutes ces nuisances ou je ne sais plus quoi. Mais le petit nombre l'emportera subversivement sur la subversion elle-même, c'est-à-dire un petit nombre décidé et qui reprend possession du monde d'une manière à la fois naturelle et poétique. Je crois que c'est ça aussi qui distingue les personnages et les complots lacaréliens.
Évidemment, la révolution, enfin, j'aime pas ce mot de révolution, parce que je suis plutôt contre-révolutionnaire, mais la révolte est déjà, doit être intérieure et spirituelle pour commencer. Et ensuite, c'est vrai que dans mon livre Retour aux fougères, ça se passe dans une petite vallée où il y a des gens assez différents, comme vous l'avez noté, qui cohabitent, qui ont des idées politiques assez antagonistes, mais qui s'entendent sur une seule chose, au moins, c'est l'ancrage, l'enracinement. Moi, je l'observe là où j'habite. Il y a des gens qui sont plutôt d'extrême gauche, qui sont déracinés, de fait, mais véritablement enracinés dans le territoire, ce qui peut paraître paradoxal. Et puis, il y a des gens qui ont l'impression d'être enracinés, et qui vivent finalement un peu comme des citadins, mais à la campagne. Alors ça, c'est les néo-ruraux.
Donc les néo-ruraux, vous les voyez justement plutôt comme des urbains déplacés, plutôt que des enracinés en devenir.
Je pense qu'il y a une reconquête, là, comme vous parliez tout à l'heure, de soi-même, en fait, de l'envie de se retrouver peut-être de manière plus facile à la campagne, où on est beaucoup moins assailli par le bruit et la fureur des grandes villes. Donc, il y a aussi des réfugiés économiques hein, qui arrivent dans les et qui continuent de vivre finalement comme dans les grandes villes. La plupart des c'est le problème de ce que j'appelle le bourgeoisisme, c'est que dans les petites villes, villes moyennes, le mode de vie est exactement le même que dans les villes de 20 millions d'habitants. Et finalement, ceux qui vivent vraiment à la campagne ben, sont la plupart du temps isolés. Et qui dit isolement, dit forcément relations les uns avec les autres, entraide, peu importe les idées politiques. Eh bien, on va tuer le cochon avec un copain, on a un ami vigneron, un autre qui est artisan. Voilà, il y a tout de suite une entraide qui se fait naturellement parce qu'on est isolé, en fait. Et j'entendais parler, j'ai pas retenu son nom, mais il y a un biologiste qui a une théorie assez intéressante qui parle de la performance et de la robustesse. Et il dit qu'on est dans la civilisation de la performance parce qu'on vit dans une civilisation, pour l'instant, d'abondance. Et donc, individualisme et chacun se confronte à l'autre et essaie d'être le meilleur. La robustesse, c'est au contraire quand on est dans une situation de pénurie, ce qui va finir par arriver, et on est obligé d'aller vers les autres et de s'entendre et de coopérer. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe au niveau biologique dans la nature. On a toujours l'impression que dans la nature, c'est la loi de la jungle. En fait, la loi principale de la nature, c'est la coopération, c'est les bactéries, c'est... voilà. C'est ce qu'on appelle aussi le parasitisme. En fait, ce sont des échanges, les racines voilà, qui, dans le sol, oui, qui apportent les nutriments. Enfin, bon, c'est
un anarchiste
c'est la coopération.
Russe, je crois, qui avait développé ça au début du XXe siècle pour s'opposer un peu aux théories darwiniennes qui montraient en effet la lutte de tous contre tous comme étant à la source même, à la source même de l'organisation naturelle et qui allait justifier un capitalisme sans frein. Et c'est un anarchiste russe, je n'ai pas son nom m'échappe, mais qui a montré qu'en effet, dans la nature, il y a aussi des formes de coopération. Alors en réalité, sans doute, il y a un peu des deux. Il y a à la fois la sélection naturelle et la coopération.
Tout de suite, c'est la prédation.
Mais les deux formes coexistent, en fait.
Oui. Alors justement, ces néo-ruraux, vous l'avez pu l'observer, est-ce que vous arrivez à dater un peu cette mode ou ce phénomène, essayer de comprendre les raisons premières et savoir si c'est un épiphénomène ou il y a un vrai désir de changement.
Non, je crois pas. En fait, le confort est plus fort, le confort des villes.
Alors, qu'est-ce que vous appelez le confort des villes ?
L'apparente simplicité de la vie où tout est accessible tout le temps, en permanence. Voilà. Mais ça ne peut pas satisfaire sur le long terme quelqu'un. On ne peut pas s'épanouir simplement en consommant, on le sait bien. Donc c'est complètement illusoire. Mais c'est la facilité, en fait, qui provoque une forme d'immobilisme et qui nous transforme, c'est un terme que j'utilise dans la taverne des ratés de l'aventure, mais en zombie, en vivant-mort, quoi. Donc en mort-vivant.
Donc les néo-ruraux sont quoi, des rescapés de ce régime bourgeois?
Oui, mais d'ailleurs, ils ont du mal à s'adapter, parce que c'est quand même pas facile. Il faut tout à coup se remettre à faire des efforts, tout est plus compliqué, il faut prendre sa voiture, enfin, c'est pas toujours évident. Quand on parle des néo-ruraux, si on parle de ceux qui vivent dans des petites villes, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas encore vivre à la campagne. Vivre à la campagne, c'est vivre dans une ferme, un peu isolée. Sinon, finalement, ça revient au même.
Dans un village ou un hameau aussi.
Oui.
Mais est-ce que vous avez, est-ce que vous vouliez l'immédiateté, la facilité avec la consommation ? On est obligé d'être des consommateurs quand on apprécie les choses faciles et l'immédiateté.
Ça peut pas être séparé. Qu'on est sollicité aussi en permanence. Donc, oui, pour moi, c'est lié, oui.
Et est-ce qu'il y a un fantasme de la campagne ? Est-ce qu'il y a un imaginaire de la campagne qui fait que, alors peut-être, il faudrait essayer de trouver lequel, qui fait qu'on désire dire on va quitter ? Alors, on a fait l'expérience avec le confinement. Bon, l'avantage, c'est qu'on a eu un printemps magnifique. Il faisait un temps de mai au mois de mars. Donc, forcément, ça triche un peu. Mais quel est l'imaginaire de la campagne qui se développe dans le cerveau de ces néo-ruraux ? Et puis,
il ne se développe pas, en fait. Il est retrouvé, puisque c'est en fait un réflexe archaïque. On est tous des fils de paysans. 95% de la population jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était des paysans. Donc finalement, c'est une sorte de retour aux sources, un réflexe peut-être de survie. Peut-être.
Et donc vous pensez que c'est un épiphénomène qui ne pourra pas fonctionner, parce que ça passe forcément, si on veut vraiment se réenraciner, ça marche par une démarche radicale et presque un exorcisme de nos habitudes d'avant. Quoi.
Oui, sans doute. C'est vrai qu'on parlait du Covid tout à l'heure, il y a eu une vague de néo-ruraux arrivés au moment du confinement, un peu après, avec des désirs de devenir maraîcher ou autre, paysan. Ça s'est largement réduit, hein. On en voit beaucoup moins arriver là.
Après, on a vu aussi des villes et puis toutes les strates supérieures qui ont aussi poussé financièrement à développer les maraîchers, les permacultures. Moi, je vois dans mon petit bled de campagne, Madame le maire a filé une somme, plus le département, plus la communauté de communes, en disant on paye pas tes choses, tu payes pas évidemment de terrain, tu payes pas de loyer, tu payes rien, et en plus tu vas avoir pendant 2 ans un financement qui te rémunère. Il y a aussi une volonté politique accompagnée d'un financement.
C'est rare, de toute façon il n'y a plus d'argent. Et on voit que toutes les aides, notamment pour l'agriculture biologique, toutes les aides se sont beaucoup réduites. Donc non, là, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Donc c'est fini.
Alors,
ça.
Revenons, donc non, on ne quitte pas, mais dans votre livre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'en effet, dans une étagère, c'est compliqué à vous classer. Pas vraiment essai, pas vraiment roman. Comment est né chez vous ce désir d'écriture, et pourquoi cette hybridation d'écriture ? Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est parce que votre premier était ainsi, aidé par votre éditeur, et donc vous avez trouvé cette expérience, en tout cas cette idée intéressante, parce qu'elle permet d'ouvrir différents champs ? Expliquez-nous un peu.
Comme disait Romaric, oui, je suis naturellement transgenre, donc en fait, j'ai grandi
dans l'écriture, je précise.
J'ai grandi avec la poésie, et là, je me suis essayé au roman. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis bien rendu compte que mes livres précédents étaient peut-être un peu déstabilisants. Donc là, je voulais m'adresser à un plus grand public, et pour s'adresser à un plus grand public, évidemment, le roman est la meilleure solution. Donc j'ai créé une intrigue, un petit peu presque d'enquête, hein, dans la première partie. Entrecoupé de poèmes, parce que il y a aussi des poèmes qui sont liés plus ou moins à des personnages, on ne sait pas d'où ils viennent, mais qui sont des appels, en fait, des éloges de la paysannerie et des appels à une révolte un peu chouane. Et puis, dans la deuxième partie, il y a donc des portraits de personnages, d'écrivains paysans que j'appelle des forlongeurs. C'est un terme que j'ai pris à la vénerie. Forlongé, quand on chasse, quand on parle d'un gibier qui se forlonge, c'est un gibier, un chevreuil ou un cerf qui prend de l'avance sur la meute des chiens et qui va même changer de territoire pour semer les chiens. Et les forlongeurs que je présente dans la deuxième partie, évidemment, c'est lié avec la première, tout est agencé, hein, ça n'arrive pas comme ça de nulle part. Ces forlongeurs-là, ce sont des écrivains qui ont à un moment donné quitté justement la grande ville pour se retrouver une forme de civilisation et lutter contre les idées folles des grandes villes, en fait, tout simplement. C'est le sujet du livre. L'antenne 5G qui explose dans la première partie, ça aurait pu être une éolienne ou des champs de panneaux photovoltaïques. Vous voyez, c'est des idées un peu folles qui nous viennent d'ailleurs et qui détruisent en fait un écosystème, un art de vivre, et qui sont parfaitement inutiles quand on voit ce qu'on fait avec nos téléphones connectés. C'est beaucoup de temps perdu, quoi.
Et les personnages que l'on croise, ce sont des personnages que vous-même avez croisés, sont des personnages qui viennent de vos lectures, parce que Romaric l'a dit, il y a beaucoup de références. Quand vous les construisez, vous les inventez.
Voilà, je me suis amusé tout simplement à m'inspirer de ce que je voyais, en fait, de ma propre vie, des gens que je côtoyais, qui sont des gens assez Bon, évidemment, mes amis pensent plutôt comme moi, je suis comme tout le monde, hein. Mais je suis en contact avec, par exemple, des gens de la Confédération paysanne qui, malheureusement, mettent trop en avant une idéologie politique, mais qui, sur le fond, pour moi, ont raison, puisqu'ils militent pour des petites fermes en polyculture-élevage, qui est le modèle souhaitable pour l'agriculture française. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait plus de main-d'œuvre, qu'il y ait au moins 1 million de personnes qui se remettent à travailler.
Retour à la terre.
Et là, voilà, c'est retour à la terre.
Une solution par rapport à la chronique de Rémi. On a commencé avec une chronique de Rémi sur le fait que les jeunes ne voulaient plus travailler. Et Rémi expliquait qu'il y avait des raisons tout à fait valables là-dessus. Donc on a peut-être une solution grâce à Bertrand.
Oui, alors ça sera la révolution culturelle chinoise peut-être. Mais
oui, c'est ça. L'immigration aussi.
Et consentie peut-être.
Consentie peut-être. C'est ça.
Est-ce que l'écriture, c'est un exercice difficile chez vous, pour vous?
Non,
vous accouchez facilement.
C'est plutôt un plaisir. C'est simplement que j'ai du mal à. Enfin, j'ai besoin du lieu et de la formule, comme dit Rabot, pour pouvoir me mettre à travailler. Et souvent, je suis pris par autre chose. Quand on vit à la campagne, en fait, on a 1000 autres choses plus urgentes à faire. Parce qu'on est toujours. Quand on a un domaine, mais il faut l'entretenir et lutter finalement contre la nature qui avance. C'est-à-dire qu'on lutte aussi. On n'est pas forcément en symbiose tout le temps.
Il faut faire sa place.
Voilà, il faut quand même se défendre.
Mais alors, vous avez
habité, vivre en bonne intelligence.
Vous avez habité à Paris, puis vous êtes revenu. Est-ce qu'on écrit différemment quand on est à Paris que quand on est à la campagne?
Alors, je ne sais pas si ça se sent dans mes livres. Là, le précédent aussi avait été écrit à la campagne, Ultra Graal. Quand on parle du livre du Graal, en fait, tout se passe dans les forêts. Hein. Les aventures des chevaliers de la table ronde, c'est uniquement dans les forêts. Donc là, c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ce livre, d'ailleurs. Comme un retour aux sources de la littérature française, le livre du Graal, 13e siècle, et aux sources de la civilisation française. Et donc, de la civilisation française, puisque la littérature française, c'est la source de notre civilisation.
Romaric, son garce.
Oui, alors... Je dis, ça peut être une bonne idée que tu nous lises un de tes poèmes manifestes, peut-être.
Bah, c'est très gênant, Romaric.
Non, enfin, comme tu veux, mais
vous ne voulez pas lire. J'en sais rien. Est-ce qu'il y en a un qui vous plairait?
Il y avait une question, mais en attendant que tu cherches, je voulais aussi te poser une question. Tant que tu cherches le poème sur. Et on a déjà parlé, mais justement, cette question des néo-ruraux, est-ce qu'il y a des échanges dans le sens où on sait que, par exemple, il y a des anciens paysans qui étaient plutôt passés aux chimiques, aux engrais, etc., que c'est souvent les néo-ruraux qui reviennent faire de la permaculture. Enfin, c'est ça un peu le paradoxe, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a souvent ce phénomène de néo-ruraux venant des villes, sensibilisés à la permaculture et à la dévastation des sols à cause de l'agriculture industrielle, qui vont être en butte avec des anciens paysans qui n'ont jamais quitté leur terre, mais qui sont passés, enfin voilà, et où quelque part le rapport moderne et anti-moderne se fait un peu à front renversé. Mais en même temps, est-ce que chacun ne s'apporte pas un peu comme ça? C'est-à-dire que les néo-ruraux vont être ressourcés avec des gens qui n'ont jamais lâché la terre, mais en même temps, quand même, malgré tout, leur apporter quelque chose, ne pas être que des urbains déracinés un peu paumés, mais aussi des urbains qui ramènent des idées, une vision du monde qu'on a paradoxalement perdu à la campagne. Est-ce que cet échange existe ou est-ce que je fantasme?
Il y a ça évolue un petit peu. C'est vrai qu'il y a des agriculteurs conventionnels qui voient faire et qui se disent tiens, c'est intéressant. Puis eux-mêmes, finalement, pour des raisons économiques, les engrais, les pesticides, tout ça, ça coûte de plus en plus cher, donc ils se posent des questions. Sur le travail du sol aussi, le non-labour, il y a des agriculteurs conventionnels qui font du non-labour. Donc il y a des passerelles. Les néo-ruraux qui arrivent avec des idées de permaculture qu'ils ont lues dans des livres, finalement renouent avec une agriculture d'avant qui n'a pas complètement disparu. Oui, il y a quelques échanges qui se font. Et puis de toute façon, il va falloir se serrer les coudes puisqu'il y a 400 000 agriculteurs aujourd'hui. Dans 50 ans, il y en aura... non, même pas. Dans 10 ans, je crois qu'il y en aura plus que 200 000.
Oui.
Et après, qu'est-ce qu'on fait?
Toutes les décennies se divisent par deux. Ouais. Chers auditeurs, il est 19h. Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Le temps d'écouter un petit message et on se retrouve tout de suite après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie, et nous avons l'honneur de recevoir Bertrand Lacarelle, écrivain, qui vient de publier Retour aux Fougères aux éditions du Cherche Midi. Nous allons nous y replonger, mais vous savez également qu'à 19h, c'est la chronique de Romaric Sangars. Alors, cher Romaric, vous voulez aujourd'hui nous parler de Gramsci, de rap et de décadence. N'avez-vous pas peur d'enfiler les poncifs réactionnaires?
Eh bien, écoutez, si, cher Arthur, mais c'est vous qui me poussez vers mes mauvais penchants, puisque vous m'avez transmis l'autre jour au bureau, et j'en prends Rémi Carlu à témoin, un rapport sur le lien entre le rap et LFI, qui venait d'être envoyé au journal. Piqué par la curiosité, je jette un œil à la chose, puis les deux, avec une attention croissante. Lilian Guignard, président du think tank bordelais Bordopolis, est l'auteur de ce rapport intitulé « L'ombre du micro sur le bulletin électoral » qui, à partir d'un certain nombre de documents, d'études sociologiques, d'essais, établit plusieurs conclusions qu'on peut juger assez hâtives mais qui ne laissent pas néanmoins de soulever quelques questions pertinentes. Le développement du rap dans les années 80 et 90 aurait préparé les actuels électeurs de la France insoumise. Lilian Guignard écrit ainsi « Les études Pyrone 2013 montrent comment le rap construit l'identité des jeunes des cités par la fierté ethnique, le rejet de l'autorité scolaire ou parentale, et ainsi une lecture binaire du monde, dominant-dominé, qui préfigure le discours de LFI avec sa sémantique, la caste, les oligarques, l'islamophobie d'État. Ce formatage, ou plutôt ce conditionnement, n'est pas neutre. La jeunesse des années 90, immergée dans ces sons, n'internalise qu'une grille de lecture. L'effort est vain face au racisme systémique, la révolte prime sur la réforme, le rap, loin d'être apolitique, a été un outil de contre-culture libertaire, comme l'analyse Mohamed Ibn Najala, sponsorisé par la gauche pour communautariser les problèmes sociaux à des fins électorales.
Jack Lang aurait préparé une génération d'électeurs à Jean-Luc Mélenchon ?
C'est là où j'émettrai quelques réserves sur des raccourcis un peu trop fulgurants. En outre, la nouvelle gauche de la prétendue Nouvelle France est en opposition sur de nombreux points avec l'ancienne gauche qu'elle s'apprête à détruire. Jack Lang n'a sans doute jamais voulu conditionner une génération de cités à voter Mélenchon. D'autant que le rap est un mouvement né aux États-Unis et qui a submergé le monde entier sans que les politiques nationales n'aient pu contrôler ou exploiter significativement ce phénomène. Mais disons que le relativisme culturel que Jack Lang a prôné a fait céder toutes les résistances civilisationnelles qui auraient pu limiter certaines des conséquences néfastes qu'entraîna le succès de cette sous-culture mondialisée. Quels dégâts ? Eh bien d'abord la haine de l'effort que Guignard rapporte à la facilité d'une musique ne nécessitant aucun apprentissage. Inutile de pratiquer un instrument ou de s'initier au solfège, on reste assis, on lance un sample, on prend un micro et on s'exprime. Et qu'exprime-t-on essentiellement ? Eh bien qu'on déteste toute forme d'autorité, mais qu'on est bien pressé de jouir de tous les plaisirs de la vie, comme les putes, la coke et l'humiliation de ses ennemis. De là à lier ces mots d'ordre avec la chute de la France au classement PISA, il y a un pas que ce rapport franchit allègrement, et c'est évidemment exagéré d'accuser le rap d'en être exclusivement responsable, mais comment ne pas considérer qu'il y participe, et qu'il n'y participe de manière déterminante, car il entretient une atmosphère morale délétère chez une jeunesse déracinée.
Le rapport de Bordelis emploie carrément ce terme de conditionnement. N'est-ce pas un rien exagéré ?
Sur ce point, cher Arthur, je ne crois pas. Parler de conditionnement, comme le fait le rapport, est assez approprié. Aujourd'hui, étant donné le mode de consommation des produits culturels, un smartphone, un abonnement, des oreillettes, imaginez l'outil d'endoctrinement extraordinaire que cela représente. Le cerveau du consommateur presque perpétuellement accessible à des messages véhiculés en flux incessant sur une musique hypnotique. Ah, comme les matraquages idéologiques de Goebbels et Staline semblent à comparer, relevés de l'artisanat. Et bien sûr, l'influence d'un tel matraquage est avant tout dévastatrice sur une jeunesse immigrée ou sans structure familiale, deux catégories qui ont cessé de croître ces dernières décennies, car aucune rive ne vient border le flux subculturel qu'on leur impose, rive de l'éducation familiale ou scolaire, ce flux les submergeant donc pour les conditionner au sens absolu du terme. Ces questions m'ont d'ailleurs rappelé un témoignage qui m'avait frappé il y a plusieurs années d'un jeune immigré futur père de famille qui avait décidé de passer le bac à 25 ans passés en révisant le jour sans avoir jamais beaucoup dormi puisqu'il était chauffeur Uber la nuit. Et ce bachelier tardif, dont l'étude était motivée par l'arrivée de son enfant, s'était enfin intéressé sérieusement à la littérature française. Découvrant Rimbaud et Verlaine, émerveillé, il déclarait à la caméra « Je me suis rendu compte que tous les rappeurs que j'écoutais n'étaient que des amateurs. » C'est exactement pourquoi je n'ai jamais été personnellement ému par le rap français, qui m'a toujours semblé une pathétique régression formelle dès lors qu'on a lu Villon, Dubélé ou Apollinaire. En somme, ce jeune homme courageux et sensible aurait pu aussi bien formuler les choses ainsi
On m'avait conditionné dans la médiocrité revancharde du rap, mais heureusement, Rimbaud m'a affranchi et découvert des horizons jusqu'alors impensables.
Si je comprends bien, ce conditionnement antiscolaire fabriquait donc en masse des électeurs LFI en leur inculquant une vision du monde particulièrement réductrice.
Une Weltanschauung dévastatrice, véritablement, Arthur, cela paraît évident. En cette semaine où le milieu médiatico-littéraire a beaucoup parlé des risques d'une ingérence idéologique dans la culture par les méthodes de Vincent Bolloré, risque en effet existant, en effet inquiétant, mais sans jamais interroger son propre gramschisme permanent, globalement en faveur de positions de l'ancienne gauche, dont Virginie Despentes, avec son look d'ado ralenti de 1989, est une exemplaire incarnation, on aimerait que la réflexion sur ce point soit portée partout, à tous les degrés et avec toute la vigueur nécessaire. Alors, on se rendrait compte que s'il y a un danger pour la liberté de création, si Bolloré veut l'enrégimenter derrière le zémouro-bardellisme, cet enrégimentement est déjà chose accomplie dans de nombreux secteurs de l'édition, dans le sens du vieux progressisme, et même si Grasset échappait justement à cette critique, mais que par ailleurs, le rap, par exemple, adressait au LFisme toute une génération en train de prendre la parole sur un registre identitaire, anti-occidental, communiste par opportunisme, racialiste, volonté antisémite, et où le degré de réflexion s'arrête à la punchline et la bannière brandie. Et que personne ne s'est offusqué de cette réalité jusque-là, puisque derrière Jack Lang, il fallait trouver toute cette énergie formidable. Le succès remarquable de Radio Nova, dont on a aussi parlé cette semaine, reflète exactement cette réalité à la suite des victoires électorales de LFI. La prise de position médiatique d'une certaine France post-nationale qui assurément ne lira ni le prochain livre de Boualem Sansal, ni celui de Virginie Despentes, et encore moins celui de BHL.
Merci cher Romaric Sangars. Revenons à Bertrand Le Carrel, donc notre invité, qui a publié donc fin d'année dernière, donc fin 2025, Retour aux fougères aux éditions du Cherche Midi. Bertrand Le Carrel, Romaric le disait, certains chapitres sont entrecoupés par des poèmes. Et donc, ce serait en effet, je pense, pour donner un aperçu à nos auditeurs que vous nous l'en lisiez. Hein.
Très bien.
Vous avez pu en choisir. Hein.
Je m'exécute.
Exécutez.
Dormance, troisième levée. Le soleil dans le sillon ouvre la voie, les sillons qui sont nos plus petites montagnes. Au creux des plus petites montagnes, la plus grande des sagesses. Les graines plus riches que nos cœurs épuisés, les semences qui attendent pour nous relever. Qui pour le labeur, sinon les poètes? Les paysans disparaissent, les fils rêvent d'ailleurs, on ne leur jettera pas la pierre, mais gagneront-ils en cœur? Qui pour remplacer les paysans, sinon les poètes, qui devront enfin prendre en charge les paysages qu'ils ont chantés, les paysages de l'âme comme ceux de la terre? Qui prendra les armes, sinon les poètes, la main à la bêche et le cœur au semis? Il faudra bien tout recommencer, reprendre la terre aux machines. Il faudra bien retrouver les gestes, rouvrir les sources, donner corps à nos ombres vaincues qui tournent en rond inutiles dans la sécheresse des villes. Il faudra des poètes, des prêtres et des paysans, des chevaliers poètes, des moines soldats et des chevaliers paysans pour vaincre les sirènes et les sortilèges par un contre-champ profond comme le son du cor au creux du vallon. Le soleil dans le sillon guide nos pas au ras du sol pour toucher terre. À l'abri de nos plus petites montagnes, nous chercherons les graines que nous avions mal semées, que nous avions négligées. Un genou en terre, nous rendrons grâce et serons adoubés le jour de la levée. Notre-Dame des Sillons, priez pour nous. Notre-Dame des Sillons, priez pour nous.
Merci Bertrand de La Carrelle. Donc je rappelle que c'est dans votre roman Retour aux fougères, au Cherche Midi. Revenons un peu à vos livres précédents, si vous le voulez bien. Vous avez consacré deux livres à deux figures, Jacques Vallée, Arthur Cravant.
Vaché.
J'ai dit quoi, Vallée? Ouais. Vaché, non, parce que c'est la vallée
c'est
du Sillon.
C'est dans la vallée. J'étais
encore dans les fougères. Jacques Vaché et Arthur Cravant. Alors, ce n'est pas forcément les plus connus de la Terre, on va dire.
Non.
Alors, peut-être vous raconter qui sont ces deux dandys du surréalisme et qu'est-ce qui vous a conduit vers ces figures-là?
Alors, vous l'avez compris, j'aime bien les figures de dissidents. Et Jacques Vaché, c'était un... Et de précurseur. Jacques Vaché, c'était un précurseur du surréalisme. Et Arthur Cravant, un précurseur du dadaïsme. Tous les deux ont vécu... ont disparu, en fait. L'un en 1919, Jacques Vaché, au lendemain de la guerre. Et l'autre, Arthur Cravant, a disparu corps et bien en 1918, au Mexique. Donc voilà, ce sont deux personnages de la même époque qui sont des personnages cultes, on dirait cultes dans les mouvements d'avant-garde du XXe siècle. Et quand il y a un personnage culte, il y a une légende qui se crée. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir qui y avait derrière ces légendes. Et donc Jacques Vacher, lui, a été célèbre, est devenu célèbre grâce à André Breton, parce qu'il a influencé André Breton. Ils se sont rencontrés pendant la guerre 14-18. Jacques Vacher était soldat blessé dans les tranchées. Il a fait 4 ans de guerre. Breton était infirmier à l'hôpital de Nantes. Et en fait, Breton a été fasciné par Jacques Vacher, qui était une sorte de dandy au milieu des tranchées. C'est-à-dire que dans ses lettres de guerre, qui l'ont rendu célèbre, les lettres de guerre, il y a une écriture déjà très étonnante, avec pas mal de références à Alfred Jarry, à Ubu, etc. Et il veille toujours à être parfaitement élégant au milieu de l'horreur. Et donc voilà, Breton était fasciné par lui, et puis Breton a été aussi, il en parle dans ses manifestes, fasciné par Arthur Cravan, tout autre personnage. Lui n'a pas fait la guerre, c'est un déserteur. C'est un poète boxeur qui faisait à peu près 2 mètres. C'était le neveu d'Oscar Wilde. Personne ne le croyait, mais il disait « oui, moi je suis le neveu d'Oscar Wilde, c'est vrai ». En fait, il était anglais, mais il a grandi en Suisse et il avait choisi la langue française. Donc il s'exprimait en français. Il avait une revue d'avant-garde pendant la guerre. Il essayait de concurrencer Apollinaire, Sandrars. En fait, c'était une sorte de raté magnifique. Il est parti à New York pour fuir la guerre. Il a rencontré Duchamp, il faisait des scandales. Puis ensuite, il a fui encore la guerre au Mexique. Et là, il a disparu en mer en essayant de rejoindre l'Argentine. Et donc, il vivotait, il écrivait des poèmes et il essayait de... Enfin, il ne comprenait pas, Arthur Cravan, pourquoi il n'était pas célèbre. Parce qu'il se considérait comme un grand poète et surtout, il était beau, grand, fort, et scandaleux. Et donc, il cherchait à tout prix à être connu, mais en écrivant de la poésie. Aujourd'hui, je pense que personne n'aurait cette idée-là. À l'époque, ça pouvait marcher à peu près. Et il faisait pour survivre, il faisait des matchs de boxe où il se prenait des raclées en général, malgré sa grande taille, qu'il n'était pas très bon. Et il a notamment fait un match contre le champion du monde de l'époque, Jack Johnson, qui était le premier champion du monde noir, un personnage extraordinaire aussi. Il y a des biographies sur lui, parce que c'était un lettré aussi, un dandy, personnage extraordinaire. Et ils ont fait un match à Barcelone, et un combat à Barcelone dans les arènes. Et Cravan a été humilié, mais il a quand même touché des sous, et ça lui a permis de continuer sa route. Et donc, les textes d'Arthur Cravan sont assez cultes aussi, récupérés par les dadaïstes, les surréalistes.
Romaric Sangars.
Oui, il y a un lien qui peut paraître éloigné comme ça entre ces poètes marginaux du surréalisme ou du dadaïsme et puis le Graal ou le retour aux fougères. C'est, semble-t-il, un certain rapport à la poésie. Puisque finalement, les surréalistes comme les dadaïstes sont des gens pour qui la poésie ne doit pas être simplement un petit spectacle qu'on donne comme ça après dîner, mais une véritable manière de réappréhender la vie, de révolutionner la vie. Le grand mot d'ordre, c'est la phrase de Rimbaud, il faut changer la vie. Et c'est ce mot d'ordre qui va être exécuté par les surréalistes et par les dadaïstes d'une manière différente. Et donc, est-ce qu'on peut voir finalement dans la trame de tous ces écrivains qui t'ont passionné, à la fois cette espèce d'ambivalence, puisque le poète boxeur, c'est-à-dire un souci de cohérence même dans la vie, ce ne sont pas que des hommes de lettres, ce sont des hommes de lettres et d'aventure qui sont incarnés d'une certaine manière, et cette idée de la poésie comme ferment d'une révolution dans le rapport au monde.
Il y a une belle expression, je ne me souviens plus de qui elle est, mais qui disait qu'ils étaient poètes de leur vie. Et donc la poésie était un mode de vie, un mode de révélation, un mode d'existence. Et ça leur permettait de sortir du conformisme. C'est des gens, Jacques Vacher comme Arthur Cravan, qui détestaient, qui avaient peur de s'ennuyer. En fait, il y avait une quête existentielle. Et donc la poésie, chez eux, devait être mise en action. Alors à travers le dandysme chez Jacques Vacher, à travers le scandale et la boxe chez Arthur Cravan. Et c'était des personnages. Alors, Vacher, ce qui m'intéressait chez lui, c'était qu'il était lucide. Au milieu de la folie, il restait lucide. Et à tel point qu'on pouvait le prendre pour un fou. Mais en fait, c'était, et puis c'était quelqu'un aussi qui avait le sentiment de l'absurdité de l'existence. Il était perdu. Il n'avait pas la foi. Il était intéressé par la religion. Il avait quelques lectures. Mais voilà. Au milieu de l'enfer des tranchées, il écrivait des phrases extraordinaires comme... il parlait de l'humour. Il avait inventé l'humour sans H, en référence à Jarry. Il disait que c'était le sens de l'inutilité théâtrale et sans joie de tout quand on sait. Alors, quand on sait quoi, mais...
Alors justement, vous parlez de ces deux légendes. Il y a une autre légende que Romaric a abordée, donc c'est celle du Graal, évidemment. Et donc ça, c'était l'objet, le sujet de votre livre publié chez Pierre-Guillaume de Roux en 2020, Ultra Graal. Voilà, j'ai plus le titre, Ultra Graal. Donc, il reste 10 minutes d'émission et je propose qu'on termine ces 10 minutes sur le Graal. Romaric étant un passionné du Graal également, je pense que ça va passionner nos auditeurs. Alors, c'est vrai qu'à première vue, on se dit le Graal, c'est pas un truc français. On dit, c'est tout de suite, on a l'imaginaire anglais, le roi Arthur, tout ça, la table ronde.
Sacré Graal, c'est ça.
Non, mais rien que le fait que ça se déroule pas en France, déjà.
Oui.
Voilà, puis les Celtes, on a tout un imaginaire qui... Disons que c'est pas... ça vient pas de Picardie. Bon, en tout cas, ils sont pas allés jusqu'à chercher en Picardie, en tout cas. Et donc, en quoi, justement, cette littérature, au-delà de l'univers et la légende, cette littérature est spécifiquement française?
Alors, le Graal a donné naissance, la légende du Graal a donné naissance au premier roman français, c'est-à-dire un texte écrit en prose et non plus en octosyllabes. Chrétien de Troyes écrivait en octosyllabes. Donc, le Graal apparaît chez Chrétien de Troyes, hein, qui le reprend d'autres textes et qui le fait apparaître, c'est dans Perceval, je crois, ça y est, je ne sais plus, mais oui. Il y a une scène fugitive où on voit une procession avec le Graal. Et qui est un mot ancien qui veut dire à la fois cratère, plat, et puis peut-être coupe du Christ. Et en fait, à partir de ce passage du Graal, il y a des écrivains anonymes qui vont reprendre cette légende, qui vont la christianiser. Le Graal va vraiment devenir la coupe du Christ. Et donc, ils vont écrire en prose et en langue romane. Et donc, le roman français, le premier roman français, c'est ce livre du Graal, écrit par pas mal d'auteurs, entre 1220 et 1250. Donc, c'est énorme, hein, et ça a été publié dans la collection de la Pléiade en 3 volumes. Et c'est un entrelacement d'histoires de la quête du Graal, des aventures de Lancelot, celle d'Arthur, mais en fait ça recommence, donc ça c'est écrit par des Français, hein. ça commence avec l'arrivée du Graal apporté par Joseph d'Arimathie, en fait. Et donc c'est une œuvre immense, et je ne comprenais pas après l'avoir lu pourquoi c'était si peu connu, en fait, cette version française du livre du Graal, parce que c'est absolument fondateur. Comme par hasard, c'est un livre chrétien, en fait. C'était une sorte d'évangile du Saint-Esprit, quoi.
Et comment vous l'expliquez, justement, que ce soit resté pas dans l'anonymat, mais que ça n'ait pas eu le déploiement, la reconnaissance, les références qu'il mérite?
Déjà, parce que c'est énorme. Donc, évidemment, tous les livres comme ça, fleuves, sont plus difficiles d'accès. Finalement, il y a eu une mode qui est passée, c'est passé à l'étranger. Il y a eu l'histoire a été réécrite en Angleterre, en Allemagne, etc. Et ça a mieux pris là-bas. Et ça nous est revenu sous forme un peu dégradée jusqu'au 19e siècle ou au 20e siècle à travers les films hollywoodiens, quoi.
Romaric, sans garde.
Oui, c'est vrai qu'il y a sans doute la question de la... Il y a une version anglaise assez tardive par rapport au roman initial des Français, qui fait une synthèse en peut-être 400 ou 500 pages des 20 000 pages du roman du Graal, qui va être un peu le canon de l'histoire du roi Arthur, et qui va être d'ailleurs ce qui va être utilisé par Bourman dans son film Excalibur, c'est cette version-là. Mmh. Et donc, c'est le canon anglais qui est un recyclage et un résumé du long développement français qui va devenir la nouvelle référence, qui va aussi participer au fait qu'on s'imagine que naturellement on associe cette histoire à l'Angleterre, indépendamment du fait que ça se passe en Angleterre, évidemment. Donc il y a aussi un lien quand même
Même si le personnage de Lancelot,
même si Lancelot
qui est en fait le premier héros français, si on veut, enfin si on fait abstraction de comment il s'appelle, Roncevaux, ça y est, Roland. Voilà. Finalement, Lancelot, lui, il vient de la Petite-Bretagne. Hein, le Graal, ça se passe entre la Grande-Bretagne et la Petite-Bretagne. Il vient même des marches, peut-être même de l'Anjou, selon certains, donc ce qui m'arrange puisque je suis angevin. Et donc là, pour le coup, c'est le premier héros littéraire français, voilà, Lancelot.
Alors, il y a eu quand même...
Quel personnage central, quand même.
Tout à fait. Il y a quand même eu, l'année dernière, non, il y a 2 ans, je crois, la redécouverte du Chevalier au Dragon. Donc, il y a quand même eu comme ça, sans doute, un nouvel intérêt autour du... Parce que ça a eu un succès fou. Je ne sais pas si nos auditeurs s'en rappellent, mais c'était un universitaire italien qui a découvert un manuscrit jusque-là inconnu du cycle du Graal, qui s'appelle le Chevalier au Dragon, et qui a essayé de reconstituer ce manuscrit en allant dans toutes les bibliothèques, en cherchant de partout, en Irlande, à Paris, à Milan, en Allemagne. On s'est d'ailleurs rendu compte que c'est Ségurant, hein, donc le roman s'appelle Ségurant, il a réussi à reconstituer le roman, il a publié ce roman, qui était un roman inconnu du Graal qu'il a republié, ça a eu quand même beaucoup de succès, ça a eu beaucoup d'écho. Il y a une série sur Arte, un documentaire en tout cas, qui a été fabriqué à partir de son livre. Je conseille aussi à nos éditeurs de le découvrir éventuellement parce qu'il est passionnant, où on voit d'ailleurs que Ségurant, et c'est Siegfried, c'est une interprétation de Siegfried, mais du Siegfried germanique dans le cadre de la matière de Bretagne. Et donc, on a vu qu'il y avait quand même, cet événement avait suscité énormément d'intérêt. Est-ce que l'époque, notre époque particulièrement trouble, inquiète sur de nombreux points, et qui a peut-être besoin de se retrouver en retournant à la Terre, a besoin aussi de se retrouver en retournant au Graal, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre dans cet intérêt que peut susciter la matière de Bretagne, enfin,
Il y a évidemment un besoin d'héroïsme, hein, dans les temps obscurs, on a besoin d'héroïsme. Mais ce que je dis dans Ultra Graal aussi, c'est que pour revenir à l'art français, c'est ce livre qui est fondateur, est écrit au moment où on bâtit les cathédrales, qui est l'expression, la première expression du génie français. Le livre du Graal est une sorte de cathédrale littéraire. Donc là, c'est vrai on l'a vu avec Notre-Dame de Paris, cet engouement. Il y a quelque chose, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'archaïque, quoi. Enfin, c'est en nous, en fait. On l'a oublié, mais la coupe du Graal. Alors, c'est devenu une expression, chercher le Graal. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu écrire ce livre. Je me disais, mais on parle tout le temps du Graal, atteindre le Graal, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est ni plus ni moins que la coupe qui a recueilli le sang du Christ, il ne faut pas l'oublier. Et c'est la nourriture à la fois terrestre et céleste. Et donc, c'est pour ça que ce livre, c'est aussi une exhortation à revenir aux sources de ce qui nous constitue, nous, en tant que Français. Il y a un côté patrimonial en nous qui doit ressurgir.
Ceux qui ont vu Indiana Jones et la dernière croisade savaient que c'était dans le sang du Christ.
Renard Alexander. Oui, il y a une très belle théorie, j'aimerais que tu nous reviennes dessus, dans Retour aux Fougères, dans Ultra Graal, sur le rapport avec Tolkien, puisqu'on parlait de ce retour d'intérêt pour le Graal, la matière de Bretagne, la légende arthurienne. Évidemment que Tolkien a donné une certaine version au XXe siècle de cette matière arthurienne, qui a eu beaucoup de succès dans les films que l'on connaît, notamment auprès de la jeunesse ces 20 dernières années. Et toi, tu as une théorie, une mise en parallèle entre l'anneau, la quête du Graal et l'anneau. Je trouve très intéressant.
Ah, c'est une quête inversée, c'est-à-dire qu'on doit se débarrasser de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, et là, c'est le contraire, on doit essayer de l'atteindre et de le garder. C'est un objet bénéfique, et l'anneau est un objet maléfique, et puis il y a toute une aventure qui se déroule autour de cet objet, quoi.
Et qu'est-ce qui change entre garder ou le repousser, finalement ? On préfère l'anneau ou le Graal, parce que c'est... On a l'impression que chercher la quête est plus facile que de se débarrasser... Soit je fais le lien avec Retour aux Fougères, on se débarrasse en fait d'un poids, de quelque chose qui est fascinant et dangereux, la consommation, la modernité. La quête, c'est on part à la recherche de quelque chose. Donc il y a quand même quelque chose, finalement, vous écoutant tous les deux, je me dis que dans la quête, il y a aussi quelque chose de sécessionniste, finalement.
Oui.
Ça fait partie de la même démarche. Alors en tout cas, cher lecteur, vous l'aurez compris, Bertrand Lacat, il a plein de livres pour vous. Son dernier, Retour aux fougères au Cherche-Midi. Si vous voulez découvrir donc, ces deux figures atypiques qui ont l'air à la fois complètement dingues, romanesques et passionnants du dandysme et du surréalisme, Jacques Vacher, Arthur Cravant, et ben, il y a deux livres que Bertrand Lacarelle leur a consacrés. Et sur le Graal, donc Ultra Graal, aux éditions de Pierre-Guillaume Deroux, et donc pour se replonger dans toute sa matière de Bretagne qui a été... abandonné ou mis de côté, ou le prolecteur n'a pas été suffisamment puissant, bah vous faites votre petit marché. Et pour ceux qui sont en vacances, bah c'est le moment de les lire. Chers amis, nous, on se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, plateau un peu différent, puisqu'il y aura donc Romaric Sangars, Rémi Carlu, mais également Richard de Sèze, qui viendra encore, pour une fois, voir à quoi ressemble une belle émission. jeudi, ça sera à ce micro dont nous restons courtois, Marc Hainaut de Valeurs Actuelles, et vendredi, Marc Baudrier de Boulevard Voltaire. Chers amis, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.
Ça suffit maintenant.